écouter un épisode du podcast Fruits de la Passion. Ils ont ressenti une envie, un besoin, une pulsion et l'ont écouté. Aujourd'hui, ils acceptent de nous le confier et de nous dire quel goût ont eu et ont peut-être encore les fruits de la passion. Cet épisode est réalisé par Mathilde Largeteau et le morceau que vous allez entendre a été choisi par notre narrateur du jour. Selon lui, il est représentatif de la période dont il va nous parler.
Alors, le Mathieu de l'époque, alors ça c'est très marrant parce que je pense que je suis assez inconstant avec le temps, mais j'ai vraiment cette idée d'être un peu toujours le même, quelqu'un qui réfléchit très lentement et qui pense pas forcément toujours beaucoup, mais qui fait les choses par instinct. Du coup, je pense que le Mathieu de l'époque, ben, il avait toujours ce truc de se dire que tout fonctionnait assez simplement suivant les gens. Et le partage des choses, c'est une des choses que j'adore, moi. Je pense que dans la vie, le plus important, c'est de partager avec les autres. C'est une coloc, du coup, partager son habitat, toujours, dans la maison du bonheur. J'avais une maison, fut un temps, qui était exactement la maison de mon père. Et du coup, la clé était sous le pot et tout le monde pouvait rentrer quand il voulait. Et dans cette maison, il y avait une niche à souris. Et à un moment, j'ai une copine qui s'était séparée de sa copine, qui est venue s'habiter dans cette niche à souris. On a colloqué un certain temps ensemble. Et du coup, on a discuté de plein de choses pendant ce temps-là où du coup, on était proches parce qu'on se voyait au quotidien. Elle faisait toujours du rap de pâte et elle m'en laissait au frigidaire. C'était cool, ça correspondait exactement au partage comme je l'aime. C'était une très chouette coloc et on a beaucoup discuté et puis partagé. Alors là-dessus, l'idée de partager tout, bah, l'idée qu'elle ne pouvait pas forcément être parent parce que comme elle aimait les filles, bah, du coup, c'était un peu compliqué. Et que moi, j'ai toujours rêvé, oui, je peux le dire, j'ai toujours mon rêvé quand j'étais petit, c'est d'être maman. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose où bah, partager la possibilité d'avoir un enfant, c'est des choses qui me semblaient logiques, mais affreusement logiques sans me poser plus de questions. Elle a dit exactement ouais, ok, pourquoi pas, je le garde en tête et plutôt cool et tout ça. On a passé des vacances ensemble, puisqu'on continue à se voir. Je me souviens très clairement d'un moment dans des hamacs, dans une maison accrochée dans la montagne, où elle me dit « Tu m'avais proposé ça pour moi, fut un temps. Là, actuellement, je suis avec une copine que je connaissais aussi. Hein. Elle aurait voulu d'être enceinte. Est-ce que ce serait quelque chose qui est transférable ?» Moi, j'ai dit « Ben, laisse-moi un peu plus connaître cette personne. » Et oui, avec plaisir. Alors là, c'est très clairement, oui, effectivement, j'ai passé du temps avec cette personne. Cette rencontre, elle s'est faite, et puis elle s'était déjà faite. On avait passé aussi du temps ensemble, des soirées, on en a un peu discuté aussi, parce que je pense que le partage, ça passe aussi par la communication. Et du coup, c'était le moment. Il y avait toute une structure qui s'est mise en place sur le côté, est-ce que médicalement, tout va bien ? Donc, j'ai fait le test, elle, de leur côté, elle a fait des tests aussi. On a fait attention, je me souviens plus trop, j'avoue. J'avais pas l'impression qu'il y avait une batterie de tests, et puis un jour, effectivement, on a pris un rendez-vous avec pas beaucoup de cérémonies plus que ça. C'était chez elle. Du coup, ben, je suis venu, elle s'était organisée, c'était tout préparé et tout ça. Et puis, je leur ai fait une bise et puis je suis reparti. Voilà, tout simplement. Alors nous, il y avait vraiment l'idée que le papa soit connu. Pour l'enfant, il y avait vraiment ce côté-là où il fallait pas que ça soit un inconnu et que ça soit un ami qui partageait des moments à un autre moment. Le terme que j'ai beaucoup aimé, moi, c'était le papa-paparent. La discussion et toutes les discussions qui ont lieu étaient avant, déjà dans la rencontre et dans les questions, dans le fait d'établir des choix, des possibilités, se dire bah, ça c'est des choses évidentes, bah oui, poser peut-être même des fois des contraintes, dire bah, ça on évitera de le faire, plein de choses où je vais rester flou, c'est tellement étendu et ça va tellement dans tous les sens que je pourrais pas dire tout est défini, mais il y avait très clairement ce côté au niveau des référents, la position des deux mamans était vraiment, on va dire, entre guillemets, prioritaire par rapport à la mienne. C'était que le côté papa-parent définissait le fait que je deviendrais quelqu'un de proche, mais pas forcément quelqu'un de référent. C'est dur à dire comme ça, mais l'idée, c'est que si jamais à un moment, elle était très, très fâchée contre ses deux mamans, et pas cette idée de servir de refuge, par exemple, ou de porte un peu trop facile à saisir. L'idée de ne pas être forcément quelqu'un qui est toujours là que pour les cadeaux et que pour la fête. cette notion de on partage des choses, mais on partage aussi des choses un peu embêtantes. Tout se fait comme ça, quoi. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, il faut réinventer. C'est-à-dire qu'on sort des rails, du coup, il faut complètement réinventer. Et je pense que se dire que discuter avant, eh ben, ça ne suffit pas. Il y aura de toute façon des choses à discuter après, parce que l'arrivée de l'enfant apporte énormément de nouvelles questions, rebouscule complètement tout. À la moindre difficulté, tout est remis en cause. Il faut rediscuter tout ça, et tout ça très calmement. Parce qu'il n'y a pas du tout de place à l'énervement et à la colère, parce que du coup, il y a un enfant qui est présent une fois que ça a eu lieu. Et derrière, bah, discuter beaucoup. Moi, je dirais toujours ça, discuter beaucoup. Et c'est de toute façon avec tout le monde, je dirais toujours, il faut communiquer le plus possible. Ça nous évitera à tous plein de problèmes. Comment je vis la grossesse? Si je dois être complètement sincèrement, je le vis de l'extérieur. J'ai été invité à la première échographie, qui était la plus simple, la plus abordable. Et du coup, il y avait ce côté, oui, il y avait quelque chose qui était mis en route et ça devenait un peu concret. Mais j'ai l'impression que c'est comme un peu tous les papas. Hein. Je pense qu'on est quand même assez extérieur au phénomène, et moi encore plus. Le choix du prénom était un gros moment de pression où je pense que j'ai dit à peu près que des bêtises. Mais si, j'ai été consulté, pas jusqu'à la fin, mais j'ai été consulté dans les bases. Il y avait cette volonté de partager, tout à fait. Je ne sais pas qui a déjà essayé cet exercice, mais c'est une pression énorme, je trouve. Ah oui, très nettement, cette pression, elle était là. Et... C'est attention, dénominer un petit être jusqu'à la fin de ses jours, terrible. Alors l'accouchement, comment je le vis? Un peu en... vraiment de loin, encore une fois, quoi. Pas dans la salle, pas du tout très proche. Assez rapidement, la rencontre s'est faite, mais pas du tout dans un instant pressurisé, comme certaines personnes, parents, le vivent. Je reçois le SMS, puis je retourne boire des coups, quoi, parce que du coup, ben, y a pas grand-chose à faire, quoi. Voilà, j'ai pas une main à tenir, j'ai pas de chambre à peindre d'une certaine couleur, voilà quoi. Les choses sont faites, et puis comme toujours avec ma temporalité très particulière, la rencontre s'est faite, au fur et à mesure la rencontre, un peu plus, et puis voilà quoi. Je pense qu'on apprend encore maintenant à se connaître, assez régulièrement, dès qu'on se voit. Dimanche prochain, on fait son anniversaire, et du coup, je viens à son anniversaire, on va faire plein de gens ensemble, et ça va être chouette. Bah, immanquablement, mon rôle par rapport à l'enfant, c'est que je suis son papa. Il n'y a pas photo. Elle en a, elle, comme référence, elle le souhaite. C'est elle qui, d'ailleurs, m'appelle toujours comme ça et qui a besoin au niveau de ses cousines. Parce qu'on passe aussi des vacances avec mon frère et mes deux nièces. Et du coup, au niveau de ses cousines, elle défend très clairement le fait que je suis son papa. Et moi, je reconnais complètement que c'est ma fille. Cette idée-là, elle est vraiment complètement établie. Donc je ne suis pas que un parrain. Elle a un parrain et une marraine. Et je ne suis pas que un ami de la famille. Je suis un papa-parent. On va dire qu'on a inventé quelque chose. Mais je pense que chacun va inventer quelque chose quand il ira dans cette configuration-là qui bouscule un peu les idées reçues, quoi. Moi, je me posais énormément de questions sur la parentalité. J'avais demandé déjà à des vieux amis de ma mère qui n'avaient pas d'enfants, donc qui étaient destinés à ne pas en avoir du tout, comment ils vivaient le fait de ne pas être parents. J'avais eu des réponses qui m'allaient très bien, dans le côté complètement serein. Je m'étais dit que c'était une option que je me mettais ou pas. Et j'avoue qu'à la possibilité de devenir un papa-papa-parent, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose de tranquille qui m'allait très très bien. Et qui me rendait simplement, sans aller forcément dans des cases où j'aurais été malheureux. J'ai un exemple paternel un peu particulier. Et du coup, aller dans des cases où ben, je me serais senti malheureux, je me suis dit peut-être que là, il y a l'occasion de créer une nouvelle case et de vraiment m'épanouir là-dedans. Pour l'instant, ça me donne plutôt raison. Il y a eu la rencontre entre petit enfant et ma maman, avant qu'elle disparaisse, elle nous a quitté un peu tôt, et la rencontre aussi avec mon papa. Il y a toujours cette notion de papa-parent qui se met en place, où il y a subtilement une distance qui fait que ça marque un peu une différence. Je pense que là-dessus, il ne faut pas se mentir. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui fait que ce n'est pas forcément exactement pareil. Et puis c'est un peu, j'ai envie de dire, toujours le contrat de ce petit mot que je vais répéter, papa-papa-parent. J'ai eu des remarques masculines sur moi, ça ne me serait pas venu à l'idée de ne pas reconnaître un enfant. Et je pense que là-dessus, il y a des choses qui sont aberrantes. Moi, ça me fait toujours de plaisir de bousculer certaines choses établies. Et là-dessus, ça m'allait très bien de les regarder, les un peu interroger, genre bah, s'il y a exactement que ces cases qui te correspondent. Reste dedans, mais moi, cette case, elle m'étouffe, quoi. C'est la deuxième maman, on va dire, qui l'a fait. Et c'était vraiment dans le contrat aussi. Ça faisait partie des choses discutées où, moi, globalement, un peu, on va dire, la génétique peut me rattraper à n'importe quel moment là-dessus. Il n'y a pas de choses où on ne peut pas mentir. Et du coup, je n'avais pas besoin du tout d'être rassuré là-dessus. Et comme toujours, j'avoue que ma sérénité m'apporte énormément là-dessus. C'est que, bon, voilà, les choses se passent et sont chouettes ou pas, mais on fait avec, quoi. Il y a plein de choses où j'aurais pas vraiment de réponse sur les questions qu'elle a dans la tête exactement, parce que je suis pas dans sa tête. Par contre, de temps en temps, comme c'est une petite fille très intelligente, il y a des petites questions qui sortent de temps en temps. Comment c'est chic? Comment je te manque? Comment vont mes cousines? Ou des petites questions comme ça, toujours formulées, qui créent un lien particulier. Mais après, de dire que j'ai toute sa réflexion, ça serait plutôt à elle qu'il faudrait poser la question. Je pense qu'elle a toute une construction qui se met en place. Je pense que le fait d'avoir deux mamans, c'est très établi dans sa tête. Un papa, c'est très établi dans sa tête aussi. Après, comment ça s'agence les uns entre les autres, j'aurais pas vraiment de réponse. De son côté à elle, de notre côté à nous, je pense que ma position, elle était assez claire, et leur position à elle aussi est assez claire. Non, puis il y a sûrement encore plein de choses à dire. Moi, j'ai envie de dire ce côté parler, c'est vraiment des choses essentielles. Une fois que l'enfant est là, il y a beaucoup de choses qui sont bousculées, des choses on pensait tranquilles qui se passent différemment. Et je pense que si... une des parties de ce regroupement est pas heureux, ça va se sentir. Il faut y faire beaucoup attention. Des points très importants, je pense qu'à chaque fois que je la vois, j'ai vraiment un truc avec elle, c'est dès que je la regarde dans les yeux, il y a vraiment quelque chose de tout net qui s'établit. Il y a sa volonté de faire un câlin qui marque bien le contact est fait. Et après, je vois bien qu'il se passe plein de choses dans sa tête et que suivant son humeur, ça se passe plus ou moins bien. Ce qui me paraît tout à fait logique, parce que pour moi, c'est un peu la même chose. J'essaye d'être tout simplement présent. J'ai modifié mon emploi du temps de semaine pour avoir un jour de disponible, parce que j'ai très envie d'être présent, de la voir le plus souvent possible. Le mercredi, j'ai deux structures, et je les ai collées lundi, mardi, jeudi, vendredi, pour pouvoir être disponible le mercredi, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment mon idée qu'elle ait une place dans mon temps. Je veux temporalité, et ça me semble important. Parce que je pense que ma temporalité fait que je suis pas toujours là. Ça me paraît logique, je dois pas être toujours là, parce que je suis pas un papa parent. Mais du coup, je suis quand même quelqu'un de particulier. Donc si elle aussi est quelqu'un de particulier, donc aménager son temps pour quelqu'un de particulier, je pense que c'est logique pour tout le monde, quoi. Il y a vraiment ce côté-là où c'est des choses qui se font doucement, parce que non plus, c'est quand même toujours aller dans l'espace de vie d'autres parents. C'est une part que, entre guillemets, je peux prendre si elle m'est offerte. Donc ça, on peut dire que c'est deux points assez importants, quoi. C'est simplement dans les points culminants, tous les moments où elle vient chercher un câlin sans se poser de questions, où c'est pas des mots, où du coup tous les deux on réfléchit pas trop, et c'est un bisou, un câlin, un dodo, tout ça c'est génial, moi je trouve. Cet enfant très brillant a eu très envie de temps en temps de tester les limites, et c'est très clairement dire des phrases ou des mots qui sont là pour voir si une écorchure, une blessure peut être faite, à quel moment c'est supportable. Des fois, elle a vraiment des mots qui sont censés être terrifiants, mais pour moi, il y a vraiment ce côté où je me pose pas de questions. Et alors, on prend qu'elle a envie de s'en poser parce qu'elle est en phase de construction et que, du coup, oui, j'entends ce que tu dis et ta volonté de faire quelque chose d'un peu particulier pour avoir une réaction, mais non, je me pose pas de questions, je t'aime, point barre. Et c'est simple, quoi. C'est j'aime bien passer du temps avec toi, mais pas trop, par exemple. Où tu lui fais ok, c'est pas mal comme phrase, ça, c'est bien, c'est bien, ça marque bien. Celui-là m'avait marqué, mais il y en a sûrement d'autres. C'est ça, et puis derrière, moi déjà aussi, il faut voir, là je parle d'elle, beaucoup d'elle, mais de moi, des fois je suis maladroit parce que tout simplement je manque d'entraînement. Des fois je suis un peu trop poussé dans certaines de mes pensées. Je pense que comme souvent chez les adultes, j'oublie qu'il y a des frontières qui sont peut-être pas comprises pareil. Des fois, j'en franchis certaines et puis je le fais avec maladresse et je blesse. Et là, par contre, ça me rend vraiment triste. Plus que c'est moi à elle qui veulent être blessant. C'est des choses où à un moment, par une partie de cache-cache, je me suis peut-être trop bien caché. J'ai sorti d'une cachette et je lui ai fait peur très fort. Et je me suis dit en y pensant, voilà, non, c'est le genre de limite. C'est un enfant, il faut être plus raisonnable que ça. Ouais, je pense que l'éducation des enfants, elle se fait déjà par le quotidien. Donc le fait de ne pas être dans le quotidien, ça change tout, globalement. Après, quand on partage des moments ensemble, donc des petits moments de quotidien, juste faire la démonstration de choses qui me paraissent plus concrètes et plus normales. Pour moi, on est d'accord, tout à fait avec mon point de vue. Les jeux participent énormément à ça. Donc accepter de perdre, accepter les règles, tout ça me paraît véhiculer énormément de choses subtilement. Et comme on joue souvent ensemble, je pense qu'il se passe des moments où il y a sûrement des petits bouts d'éducation qui se passent sans que je sois dans quelque chose où je suis pas, de toute façon pas quelqu'un qui gronde énormément, pas quelqu'un qui se met en colère ou qui a des choses un peu dogmatiques. J'aime bien, s'il te plaît, merci, il y a des choses simples. Mais si on me dit escargot limace, ça passe aussi. Dans la question du lien et de ma présence et du fait qu'on m'empêche d'être présent dans la vie de ce petit enfant merveilleux, je pense que le lien amical qu'on a tous ensemble fait que je ne me pose pas cette question. En plus du fait que je sois quelqu'un de peu, entre guillemets, peu craintif, je ne me pose pas cette question et je me dis que quoi qu'il arrive, je trouverai la force de refaire un lien et tout ça. Mais non, le lien amical fait que je pense que s'il y avait ce genre de débordement, il faudrait déjà que je pense que quelque chose d'un peu lourd qui se passe au niveau de la communication derrière. Je suis quelqu'un qui peut vraiment communiquer, essayer de communiquer, qui fait beaucoup d'efforts pour ça. Qu'il n'y a pas de raison que ça arrive, du coup, j'en ai pas la crainte. Il y a vraiment ce côté, la relation, qui est très particulière. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce côté avancer vers elle, c'est particulier, c'est des petites portes qu'elle ouvre. En plus, c'est dans un espace parental qui n'est pas forcément le mien, du coup, il faut que je l'emprunte. Derrière, c'est des choses super chouettes, de toute façon, à 200% dans ma tête. Ce qui est sûr, c'est que quand elle fait quelque chose ou qu'elle me dit quelque chose, ça me remplit de quelque chose à chaque fois qu'elle pense, qui me fait que ça trotte dans ma tête gentiment. Et je me dis, ah tiens, je pourrais changer. Et ne serait-ce que quand elle vient à la maison et qu'elle me fait une remarque sur ma maison, mentablement, je modifie ma maison en conséquence, quoi. Très souvent, j'ai des amis qui font « Tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant », qui sont toujours marrantes. Je les regarde, je suis silencieux. Oui, ils sont au courant, mais des fois, ils oublient, puisque je ne suis pas un parent. Donc, je ne vais pas avoir cette discussion sans pitonner en disant « Oh là là, j'ai pas pu dormir » ou « Oh, il y a eu encore ça ». C'est tout ça, donc des gens oublient, mais il y en a qui n'oublient pas du tout et qui sont quotidiennement là-dedans. Et je pense que pour eux, c'est ça, être parent et rien d'autre, quoi. Tout plein de gens qui savent pas dans quelle catégorie me poser. Ma famille souhaite son anniversaire, me pose des questions sur elle régulièrement. C'est pas quelque chose qui, chez tout le monde, arrive à avoir la même souplesse. C'est vraiment, tous les gens ne sont pas égaux. On le voit par rapport à cette pensée-là, quoi. C'est assez intéressant ce que ça déclenche. On avait un moment, un arbre généalogique familial pendant l'anniversaire de quelqu'un. Je vous cache pas que au moment où nous inscrire dans cet arbre généalogique, ça faisait bizarre, ça faisait un peu des ratures, des traits dans les sens qui n'étaient pas normaux et tout ça. Et c'est assez rigolo, de toute façon, toujours de faire ça, quoi. Mais c'est marrant comme tout le monde n'est pas égaux face à cette réflexion-là, quoi. Si je devais parler au Mathieu d'avant, moi, je dirais encore la même chose. On parle encore plus, parle toujours plus. On parle jamais assez. On profite tout le temps, quoi. De toute façon, c'est des choses qui m'impactent aussi bien dans cette parentalité que dans ma vie normale. C'est que j'ai un peu de tendance à voir les choses passer et pas toujours être actif sur tout. Et des fois, le temps, il passe, même si je le perçois pas toujours. Profiter des choses en général tout le temps, et c'est une bonne chose. Mais je pense qu'on peut le dire à tout le monde, ça. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Killing me softly with this song. Yeah.
Ce morceau a lui aussi été choisi par notre narrateur. C'est tout simplement sa chanson préférée. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Fruits de la Passion. Cet épisode a été réalisé par Mathilde Largeteau. Le générique est de Florian Ricci. Les créations musicales et le mixage sont de Thomas Juvet et l'habillage graphique est de Chang. Vous avez aimé cette histoire et vous souhaitez nous contacter ou contacter son narrateur? N'hésitez pas à nous écrire sur bonjour@passion.audio. Nous sommes aussi présents sur Instagram, Facebook, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Tapez simplement « Fruits de la Passion ».